Chapitre 11. La mesure du pardon. 21e dimanche après la Pentecôte. Si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond du cœur. Matthieu, chapitre 28, verset 35. À la faveur d'une des plus belles paraboles du Maître, la liturgie nous réunit aujourd'hui devant le tribunal où nous rencontrerons le Seigneur, dans sa puissance et dans sa gloire. Le règlement des comptes est ouvert. Nous passons l'un après l'autre devant notre roi. Tremblant de crainte, nous tombons à ses pieds, car nous ne pouvons pas rembourser notre dette. Et notre dette est immense, et la sentence du roi sera sans appel. Quelle sera cette sentence ? Notre Sauveur ne nous aura pas pris au dépourvu. Il nous en a prévenu de la façon la plus explicite. C'est nous-mêmes qui décidons maintenant de notre sort éternel. Il usera envers nous de la même mesure dont nous nous serons servis pour juger nos frères. Bienheureux serons-nous si nous avons été miséricordieux à leur égard, parce que nous obtiendrons miséricorde. Notre dette nous sera remise si nous avons fait grâce à ceux qui nous ont offensés. Au contraire, Dieu nous traitera avec la dernière rigueur si chacun de nous ne pardonne à son frère du fond du cœur. Le récit parabolique se passe de commentaires. Venons tout de suite à son application. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, devant Dieu, nous sommes tous des débiteurs insolvables. Dans l'histoire qu'il imagine, Jésus a intentionnellement forcé les prêts. Les rois n'ont pas coutume de prêter de l'argent à leurs sujets. C'est plutôt l'inverse qui se produit. Au demeurant, la somme dont ce ministre est redevable au souverain est exorbitante. 10 000 talents, quelque 60 millions de francs or. Ces détails invraisemblables dépeignent cependant notre situation réelle par rapport à Dieu. Oserons-nous comparer le service que nous lui rendons aux dons prodigieux dont il nous comble ? Qu'ajouterions-nous après avoir dit qu'il nous a donné son Fils ? Après cela, faisons le compte, si nous le pouvons, des biens de la nature et de ceux de la grâce qu'il nous a si largement départis. Qu'avons-nous fait de tant de richesses mises à notre disposition ? Ont-elles fructifié entre nos mains ? Nous avons gaspillé une grande part et de plusieurs nous avons fait un mauvais usage. Notre bilan se solde par un énorme passif de bons désirs irréalisés, de promesses oubliées, de fautes à demi réfléchies et de péchés consentis. Débiteurs insolvables, indignes de la rédemption, nous méritons d'être vendus ou livrés aux exécuteurs, jusqu'à ce que nous ayons tout remboursé. Et puisque nous n'y parviendrons jamais, c'est à un châtiment sans fin que nous devrions être condamnés. Mais Dieu est amour et en regard de notre passif, il aperçoit au compte de l'actif un petit reliquat de charité. Oui, le Dieu que nous avons offensé, nous l'aimions quand même et nous l'aimons encore. La douleur que nous éprouvons de n'avoir pas accordé notre conduite à notre foi, tout autant, sinon plus que la peur des sanctions, nous jette à ses pieds. « Seigneur, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Et le roi qui connaît notre faiblesse, sachant de quelle argile nous sommes pétris, car c'est lui qui nous a créés et non pas nous, est saisi de pitié. Parce qu'il est juste, il nous juge avec miséricorde et il annule sa créance. Sans doute pour nous pardonner, Dieu attend-il notre repentir. Son pardon n'en est pas moins un effet gratuit de sa bonté. Je t'ai remis toute ta dette parce que tu m'en as supplié. Il suffit que nous le supplions. Lui ne demande qu'à nous pardonner. Chaque fois que nous frappons notre poitrine, c'est son cœur que nous touchons. Il donne et il pardonne parce qu'il est Dieu. Commentant l'œuvre de la création d'après la Genèse, saint Ambroise arrive à ces paroles. Puis Dieu se reposa. Il cherche le motif de ce repos inattendu et nous suggère cette merveilleuse trouvaille. Dieu avait fait le ciel. Je ne lis pas qu'il se soit reposé. Il créa les anges, il ne s'est point reposé. Il fit la terre, le soleil, la lune et les étoiles, tout cela sans se reposer. Mais je lis qu'il fit l'homme et qu'alors il se reposa. C'est qu'il avait enfin quelqu'un à qui pardonner. Cependant, l'amour appelle la réciprocité. Dieu ne jette nos péchés derrière son dos que si nous lui prouvons qu'en dépit de nos désobéissances ou de nos révoltes, nous l'aimons de tout notre cœur. Non pas seulement des lèvres, mais effectivement. Et le moyen d'aimer Dieu, que nous n'avons jamais vu écrit, Saint Jean, est d'aimer notre frère que nous voyons. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. En consentant à faire céder la justice à la miséricorde, le Seigneur nous ouvre les régions de la grâce. Nous n'y pénétrerons qu'à la condition de l'imiter et de faire grâce, nous aussi, à ceux qui ont eu des torts envers nous. Nous ne sommes l'objet de son pardon que si nous pardonnons à nos frères. Le repentir est un acte d'amour. Sommes-nous sincères? Voulons-nous vraiment tuer notre égoïsme de pécheur? Prouvons-le en nous montrant indulgents avec ceux dont l'égoïsme nous a fait souffrir, car celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Lorsque Jésus nous dépeint le jugement universel, nous le voyons ouvrir le royaume de son Père aux chrétiens qui lui ont témoigné leur amour en secourant les détresses des malheureux. Les autres qui sont passés indifférents à côté des détresses de leurs semblables ne l'ont pas aimé et seront réprouvés. Tout le jugement porte sur le devoir de la charité fraternelle qui est l'achèvement de la loi. Cette fois encore, Jésus nous montre Dieu s'effaçant derrière nos frères. Il est prêt à nous pardonner pourvu que nous pardonnions. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme j'avais eu pitié de toi? Ainsi, l'issue du jugement qui fixera notre éternité dépend strictement de nous. Dieu mesurera son pardon à notre indulgence envers nos frères. N'accueillerons-nous pas cette assurance par une explosion de joie? Nous n'avons qu'à vider notre cœur de ressentiment à l'égard d'autrui et notre Père nous étreindra dans ses bras. Par suite de quel incompréhensible aveuglement quelques-uns détournent-ils une promesse aussi généreuse en une menace effrayante? Ceux-là disent « Je ne puis pas pardonner ». Vous ne voulez donc pas que Dieu vous pardonne? Pourquoi demeurer dans la haine? Votre juge vous accorde le délai qui peut vous sauver. Vous vous réclamez de sa miséricorde. Soyez vous aussi miséricordieux en pardonnant à votre frère du fond du cœur. Est-il besoin de faire observer que notre Seigneur se place ici sur le plan de la conscience individuelle? Il ne songe pas à exclure les poursuites que la société a le devoir d'exercer contre les coupables. Il ne retire pas aux autorités légitimes le droit du glaive qui a pour fin de garantir le bien commun. Ne pas réprimer l'injustice serait la pire des injustices. Le tort dont nous avons été victimes peut entraîner pour son auteur des sanctions nécessaires qu'il nous serait d'ailleurs rarement loisible d'empêcher. Selon qu'il s'agira de sauvegarder la justice ou la paix, nous serons autorisés à défendre nos droits ou invités à y renoncer. Jésus n'interdit qu'une chose, mais il l'interdit absolument parce qu'elle viole la justice, c'est la vengeance. Au désir toujours immodéré des représailles, il veut que nous opposions l'oubli des injures et le pardon des offenses. C'est donc uniquement dans le fort intérieur de la conscience que le précepte du Seigneur nous atteint. Mais dans ce domaine, il nous oblige sans aucune limitation. Afin d'écarter tout de suite les prétextes sous lesquels nous essaierions d'abriter nos rancunes et pour couper court à toutes les récriminations de l'amour-propre, le Sauveur nous ordonne de comparer les dettes de nos frères à celles que nous ne pouvons pas acquitter envers Dieu. Le serviteur sans pitié de la parabole, à peine libéré d'une dette énorme, saisit à la gorge un de ses compagnons et le fait jeter en prison parce que l'autre ne peut lui rembourser 100 deniers, une bagatelle auprès des 10 000 talents dont le roi lui a donné quitus. Et le Seigneur continue au-dedans de nous. Que sont les manquements de ton frère envers toi à côté d'un seul de tes péchés? Tu refuses de pardonner parce qu'il y va de ta dignité? Mon Père est plus grand que toi et il pardonne. je me suis abaissé jusqu'à mourir sur une croix pour mériter ton pardon. » La parabole ne fait qu'illustrer plusieurs autres prescriptions non moins formelles du Sauveur. Si ton frère t'a offensé, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Si 7 fois le jour il pèche contre toi et que 7 fois il vienne te dire « je le regrette », pardonne-lui. Luc, chapitre 17, verset 3. Jésus revient souvent sur cette obligation. « Ton frère a péché, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Matthieu, chapitre 18, verset 15. « Puisque tu es l'offensé, tu tiens le beau rôle. L'autre a honte de sa mauvaise action ou de sa parole dure. Il craint de reparaître devant toi. Il s'enlise lentement dans sa méchanceté. Va le trouver, sans témoin, afin de ne pas le froisser en public. Et il ne manquerait pas de se justifier et le conflit s'envenimerait. Reprends-le. » Admirons la richesse de ce mot, reprends-le, car il est en train de t'échapper. Reprends-le, car il se laisse glisser dans le mal. Relève-le, car il se sent déchu et se croit maîtrisé. S'il se repent, quelle victoire tu auras remportée. Tu auras gagné ton frère qui était sur le point de se perdre et qui aurait été perdu pour toi. Simon Pierre, troublé par un enseignement aussi nouveau, se demande s'il a bien compris la pensée de son maître. « Vraiment, Seigneur, si mon frère pèche contre moi, devrais-je lui pardonner jusqu'à 7 fois ?» Et le Sauveur, avec un sourire que nous devinons d'étendre davantage l'hyperbole qui étonnait son disciple, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu, chapitre 18, verset 21. En reculant encore les limites, Jésus n'entend pas encourager le coupable, comme si indirectement il lui assurait un pardon devenu une simple formalité. Ce pardon automatique, objecte-t-on, est une prime aux mauvais caractères, aux égoïstes et aux roués. À la vérité, Jésus n'examine pas ici la conduite de l'offenseur. Il ne veut même pas supposer que son disciple soit celui qui a peiné ou lésé autrui. Il envisage exclusivement le cas où nous avons été offensés, et il supprime radicalement toute limite au-delà de laquelle nous pourrions retrouver le droit de haïr ou de céder à l'instant de la vengeance. Soit un chrétien doit pardonner au coupable qui se repent. On conviendra même que la nature trouve sa récompense dans la satisfaction que procure la magnanimité. Mais si l'offenseur refuse de reconnaître ou de réparer ses torts, s'il rejette la réconciliation que nous lui proposions, si loin de se repentir, il persévère au contraire dans sa malignité, continuant de nous accuser faussement, de ternir notre réputation, de chercher à nous nuire, le précepte du Seigneur nous oblige-t-il encore? Puisque le pardon de Dieu est à la mesure du nôtre, cela n'implique-t-il pas en contrepartie que le nôtre doit se modeler sur le sien? Or, le pardon divin n'est pas inconditionnel. Le pécheur doit avouer sa culpabilité et éprouver une vive douleur d'avoir transgressé la loi divine. De plus, il est tenu de réparer sa faute, et lorsqu'elle est irréparable, de la compenser par un surcroît de pénitence. Enfin, il devra promettre loyalement de ne pas récidiver. Si l'une de ces conditions fait défaut, Dieu ne pardonne point. En bonne logique, ne sommes-nous pas autorisés à refuser le pardon à quiconque ne regrette pas le mal ou la peine qu'il nous a causé? En logique chrétienne, nous devons imiter Dieu. Mais que fait Dieu en l'occurrence? Il n'accable pas le pécheur qui persiste dans sa rébellion. Il lui laisse le temps de s'amender. Sa miséricorde est telle qu'il lui envoie des grâces pour l'amener à se repentir. Dieu déteste le mal, mais non pas le méchant. Le comportement du chrétien ne peut que s'inspirer de la conduite divine. Quoique l'offenseur ait refusé la main que nous lui tendions, nous resterons prêts à la réconciliation, tout en condamnant ses mauvais procédés, en condamnant le mal, nous laisserons à Dieu le soin de juger le méchant et nous nous interdirons de le haïr. La victoire du chrétien n'est pas dans le malheur ou l'anéantissement de celui qui le traite en ennemi. Elle consiste à souhaiter qu'il se repente et à prier Dieu afin qu'il se convertisse de ses péchés. « Priez, nous dit Jésus, pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient. Bénissez ceux qui vous maudissent. Que l'offenseur ait l'obligation de se repentir, de s'excuser et de réparer, c'est certain. Mais ce n'est plus notre affaire. Notre affaire à nous est de ne pas prolonger un grief, de ne pas éterniser un différend, et pour cela d'oublier l'injure et d'étouffer la rancune. Et le Seigneur énonce l'argument qui doit emporter nos hésitations. Tu es devant Dieu un débiteur insolvable. Ton frère non plus n'acquitte pas sa dette envers toi. Mais si tu renonces à lui tenir rigueur de sa faute, moi je réparerai pour lui. Je prends sa dette à mon compte et je la quitte en te pardonnant. » Jésus précise bien que la transformation doit s'opérer en nous, quelle que soit l'attitude du coupable dont il ne s'occupe pas en ce moment, car il nous commande de pardonner du fond du cœur. Notre pardon n'est effectif que s'il ne comporte aucune arrière-pensée de défiance. Mépriser un affront sous prétexte qu'il ne nous atteint pas n'est plus un acte d'amour, mais une revanche de l'orgueil. On ne pardonne pas dans un geste d'indifférence. Le pardon est un sacrifice par lequel on se désarme afin de ne plus pouvoir se venger. Et parce que ce sacrifice coûte beaucoup à notre nature, Dieu le reçoit en expiation de nos péchés personnels. Et il en fait pour nous un moyen de sanctification. En pardonnant à nos frères, nous atténuons leurs torts et nous réparons en partie le mal qu'ils ont commis. Pardonner est un acte rédempteur. En annulant la dette de notre offenseur, nous le libérons d'une entrave. Nous lui permettons de repartir d'un pas plus léger sur la voie du bien. Pardonner est un acte créateur. Pardonner est une fonction divine. Et c'est pourquoi Jésus nous en fait un précepte aussi catégorique. Notre sainteté est à ce prix. En pardonnant, nous devenons semblables à Dieu. Je crains, mes frères, de ne vous avoir pas tous convaincus. Vous consentiriez à pardonner à l'injustice dont vous avez été vous-même l'objet. Mais le mal qu'on a fait à des êtres innocents que vous aimez, il faut peut-être dire que vous aimiez, car un crime irréparable vous les a ravis. On ne vous parle pas de l'oublier et de pardonner aux malfaiteurs. C'est au-dessus de vos forces. Frères trop malheureux, je m'incline devant votre douleur et Dieu me garde de vous juger. Un autre cependant peut vous rendre capable de vous élever jusqu'à l'héroïsme dans le pardon. Le crucifié du calvaire qui n'a pas voulu mourir avant d'avoir prié le Père de pardonner à ses bourreaux. Lorsque tout à l'heure il sera présent au milieu de nous, tel qu'il s'offrait sur la croix, écoutez-le redire et tâchez de redire avec lui « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus nous attend tous autour de cet autel jusqu'à ce qu'il revienne juger le monde. Donec veniat. Avec lui, offrons à Dieu le sang qu'une fois pour toutes il a répandu pour la rémission de nos péchés. Il vient nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'y a-t-il pas dans notre cœur une cicatrice mal fermée, un grief, un tort, une peine que nous ne lui avons pas encore offerte parce que nous n'avons pas pardonné à celui qui a mal agi envers nous? Jésus vient à nous avec ses trésors de miséricorde. N'allons pas repartir les mains vides et le cœur toujours ulcéré, mais nos âmes seront purifiées et du même coup, apaisé si nous accordons au Seigneur ce qu'il nous demande, si chacun de nous pardonne à son frère du fond du cœur.